Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Bienvenue à bord de la route inconnue. Vous retrouverez tout à l'heure nos chroniqueurs de choc, Jacques Morin, Louis Dubot et Jean Antonini. Mais dès à présent, eh bien, je vous propose de faire connaissance d'une poète dont on parle beaucoup. Et c'est normal qu'on en parle parce qu'elle a un talent fou. Et là, publié récemment deux livres, 27 degrés d'amour, publié donc aux éditions Le Citron Gare, et un polder. Alors, vous connaissez la revue des charges qui est notre partenaire. Eh bien, polder, c'est un petit livre qui est donné avec la revue deux fois dans l'année. Ce livre s'intitule Un récit. C'est ni plus ni moins finalement qu'un récit de la création du monde. C'est très ambitieux. Et puis 27 degrés d'amour, donc aux éditions Le Citron Gare, dont je vous lirai des poèmes tout à l'heure que j'ai personnellement adoré, je le dis tout de suite. Claude Landrieu, on va essayer de remonter un peu le temps. Comment êtes-vous né à la poésie? D'abord, quelle enfance avez-vous vécu? Vous étiez quelqu'un plutôt de rieur qui passait beaucoup de temps dans la rue, sur les terrains de sport, ou plutôt quelqu'un qui garde la chambre et qui lit tout simplement?
Alors, j'étais pas sportive du tout. Je passais mes récréations à bavarder avec mon meilleur ami. Voilà, on adorait parler. Bien sûr, j'aimais beaucoup lire aussi et je regardais toujours avec un peu de, pas d'étonnement, mais enfin, je comprenais pas forcément le plaisir que tous les autres avaient à sauter à l'élastique ou à jouer au football, j'avoue. Mais j'ai eu une enfance très très heureuse. Voilà, très très tranquille. On habitait en ville, mais mes parents avaient gardé un lien très fort avec la campagne où ma mère a grandi, dans la ferme de Bracombe, dont je parle dans.
Il y a un très beau texte. Oui.
Voilà. Et tous les dimanches, on s'y rendait, et donc ça a vraiment marqué mon enfance avec cette idée que, enfin, qui était vraiment, c'était pas une idée, c'était une nécessité pour mes parents. De retourner chaque semaine dans cette campagne, de se promener, peu importe que ce soit le même chemin, mais de respirer le bon air, d'être loin de la ville, de se ressourcer. Et je pense que voilà, ça m'a beaucoup façonné ceci.
Oui. Ce qu'on peut dire de votre poésie, c'est une poésie amoureuse. Ce qui a titillé quelque chose chez moi, c'est que vous venez de dire « Je passais mon temps à bavarder avec mon meilleur ami ». C'était un garçon, votre meilleur ami, alors?
Oui, c'est ça. Ouais. On nous a traités d'amoureux toute notre enfance, alors que c'était absolument pas le cas. Mais c'était peut-être la seule personne qui partageait ce goût pour la parole et peut-être une certaine absence de goût pour le foot aussi.
Ouais. Il y a chez vous un grand amour des hommes, un grand amour de l'amour aussi, non?
Oui, c'est vrai, oui. Oui.
Comment êtes-vous née à la poésie, alors?
Je pense que ça vient de très très loin. Ma mère m'a lu beaucoup d'histoires, même si ce n'était pas des poèmes. Il y avait une mélodie dans les textes qu'elle choisissait. Il y avait un livre que j'avais appris par cœur quand j'étais toute petite. Et puis ma maîtresse de CE1, qui s'appelait Madame Lacaille, avait expliqué les règles du décompte des syllabes et du E, quand le E est muet, quand le E n'est pas muet à la fin d'un mot. Et ça, j'avais compris tout de suite et ça m'avait vraiment fascinée. Et donc voilà, on n'a pas eu besoin de me le dire deux fois. Je pense que peut-être ça fournissait une explication au rythme qui me plaisait, voilà. Même si par ailleurs la poésie à l'école, c'était pas comment dire, j'ai pas vraiment de poèmes de l'école qui m'ont marqué. J'aimais pas particulièrement faire l'illustration qui allait avec la poésie, mais le rythme des textes me faisait quelque chose, voilà.
Ouais. Ça ne m'étonne pas du tout, car vous avez une grande maîtrise. Vous êtes encore une jeune auteur, mais une grande maîtrise de la prosodie. Il y a une amplitude du vers chez vous qu'on ne voit plus guère aujourd'hui.
Je ne sais pas quoi vous dire, à part merci beaucoup.
Alors, il y a eu comme ça des poètes qui ont compté dans la genèse de votre aventure d'écriture.
Alors, oui. Enfin, je pense d'abord que la première fois où je me suis aperçue qu'une écriture pouvait être une voix unique, C'est en découvrant Victor Hugo, mais pas dans ses poèmes, mais dans ses romans, et en particulier dans les, je sais pas pourquoi, dans les Travailleurs de la mer, que j'ai lu assez jeune au collège, en fin de collège. Et j'ai eu vraiment cette perception qu'il y avait une voix qui n'appartenait qu'à lui, que quand on lisait une phrase de Hugo, on lisait pas une phrase de quelqu'un d'autre, un peu comme quand on écoute un thème de Mozart et qu'on ne peut pas le confondre avec un autre musicien. Mais c'était pas quelque chose de formalisé, je le formalisais pas comme ça dans mon esprit, mais je le percevais quand même.
Ouais, vous...
Et puis beaucoup plus tard, enfin quelques années plus tard, c'est vraiment René Guicquedou, j'ai envie de dire, qui m'a sauvé la vie. Parce que à un moment où j'étais relativement triste, on peut dire peut-être que c'était dépressif, hein, ce qui me faisait tenir malgré tout, ce qui m'empêchait de sombrer jour après jour, c'était de me réciter des vers de Cadou. Donc tous les soirs, pendant une demi-heure, j'apprenais des poèmes de Cadou par cœur. Et je crois que son rapport à la nature, son naturel, sa simplicité, et puis lui, chez lui aussi, l'amour immense qu'il a pour son épouse, ça m'a aussi beaucoup marqué. Et je pense ça m'a aidé à percevoir que la joie est toujours là quelque part, en fait. Et que je crois que la poésie, c'est une façon d'être en contact avec la joie profonde. Cette joie, elle est profonde parce qu'elle est immense. Elle est aussi parfois profonde parce qu'elle est enterrée loin, loin, loin sous d'autres choses. Il faut pas oublier d'aller la chercher.
Ouais. D'où, dans un de vos poèmes, la liberté des feuilles, qui était tout à fait cadoucéenne.
Oui, oui.
Il y a d'ailleurs chez vous un goût, évidemment, c'est le règne végétal ne vous est pas étranger. Hein. Vous dites, vous avez passé une partie de votre enfance dans un arbre, les arbres sont très présents, les feuillages aussi, on sent la sève qui parcourt vos poèmes.
Oui, oui, bah c'est vrai, les arbres me fascinent de manière très... Enfin, très quotidienne, ça peut tout à fait m'arriver de tomber en ébahissement devant un arbre, que ça soit à côté de mon collège, dans un parc à Lyon ou dans la nature. Pour moi, il y a des arbres qui dégagent vraiment quelque chose de puissant, d'attendrissant parfois. Voilà. Et je me souviens, alors j'ai complètement oublié le nom d'une artiste japonaise, mais j'avais vu une de ses expositions en Haute-Loire. Une artiste japonaise qui peignait des arbres gigantesques. Elle exposait dans une grange et ça montait jusqu'au plafond. Et je me souviens qu'un de mes premiers éblouissements devant la peinture, parce que moi j'avais aucun contact avec la peinture, mais vraiment j'ai senti quelque chose d'extraordinaire devant ces peintures d'arbres.
Il y a d'ailleurs dans votre poésie ce mouvement de l'arbre vers la lumière. Votre poésie est aussi verticale. On sent une élévation. Est-ce que quelque chose comme la foi vous inspire? Quelque chose qui ressemblerait à la foi?
Oui, ça me fait sourire parce qu'en fait, moi, je ne crois pas du tout en Dieu, mais peut-être que oui, peut-être que j'ai quelque chose qui s'appelle la foi. Il m'est arrivé une anecdote sur un marché, un vieux monsieur qui vendait vraiment... des légumes difformes, on voyait que c'était pas un vrai vendeur, que bref, il avait vraiment besoin de l'argent, du petit peu d'argent qu'il récupérait là. Et puis j'ai engagé la conversation avec lui et il me demande si je suis catholique ou protestante, parce qu'on était en Haute-Loire et que voilà, pour eux ça a beaucoup d'importance. Première question, vous êtes catholique ou protestante? Ni l'un ni l'autre. Et mon mari à côté de moi dit pour pas que la conversation s'arrête là ou pour, mais elle a la foi. Et c'était la première fois que mon mari disait ça. Et voilà.
Je voudrais juste citer ces trois petits vers à la fin d'un poème, page 74 des 27 degrés d'amour. La nature est ainsi amoureuse et confiante, nulle crainte en son cœur. Vous êtes à l'image de la nature.
Oh, je dirais pas qu'il n'y a pas de crainte dans mon cœur, non. Mais que je reste amoureuse et confiante, oui, oui. Je crois, oui.
Alors, ce qui est très amusant, c'est que vous ne craignez pas, par exemple, de chanter, de chanter le mariage, de chanter l'amour conjugal, etc. Des choses, c'est pareil, qu'on n'entend pas beaucoup dans la poésie d'aujourd'hui.
Oui, ben...
Évidemment, pas du tout sous l'angle moral, je rassure,
oui,
évidemment.
Oui, oui.
Mais sous l'angle du désir, en tout cas, c'est voilà.
Bah, je sais pas quoi répondre. Ouais. Peut-être que c'est pas un sujet de poème, c'est ouais. vrai. Et je pense que si c'est pas un sujet de poème, ça, c'est peut-être lié à une histoire littéraire qui a fait que le seul amour qu'on célébrait, c'était l'amour hors mariage. Et si cette histoire littéraire est certainement liée à l'histoire tout court, parce que ouais, y a eu des siècles de mariages non choisis. Donc peut-être qu'en fait c'est juste à inventer et que maintenant il est temps, peut-être, maintenant qu'on choisit avec qui on se marie, il est peut-être temps de le célébrer.
Ouais. Je voudrais qu'on parle de l'autre livre, Un récit, donc c'est un polder, c'est le 174e polder de la Revue des Charges, il est préfacé par Jean-Pierre Siméon, s'il vous plaît. C'est donc le récit de la création du monde, ni plus ni moins. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ?
Alors, au départ, c'était pas du tout une idée, c'était pas un projet très construit, il y avait pas de projet du tout. Les premiers textes sont nés il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, à une époque où j'étais en région parisienne, un peu coincée, et très loin de la nature. Je pense que la nature me manquait beaucoup. C'était une époque aussi où je fréquentais une poésie très différente, par nécessité, parce que j'étais supposée faire des cours sur Marot et aussi sur la poésie de cour au XVIe siècle. Donc j'étais obligée de lire cette poésie-là. Mais Marot me plaisait beaucoup, et Marot m'a toujours beaucoup... Enfin, je l'ai découvert à cause des cours que j'étais obligée de donner, mais il me plaisait beaucoup. Et, enfin, je ne sais pas si c'est un rapport, peut-être que ça n'a aucun rapport, mais je sais que j'ai écrit ça tout en lisant beaucoup de Marot. Et puis, c'était des textes qui venaient tout seuls. J'étais dans le RER, j'avais la tête pleine de farcis, de lectures théoriques, bref. Et puis, peut-être, je crois que c'est ce désir de nature et le manque de la nature qui surgissait comme ça, sous forme de textes, en fait, très brefs. Et j'ai laissé faire ça tout seul. Et puis, au bout d'un temps, j'ai commencé à l'organiser et j'ai eu envie d'écrire une genèse, effectivement. Et il y avait beaucoup de trous, en fait, beaucoup de faiblesses, de lacunes, de textes qui n'étaient pas à la hauteur au milieu de tout ça. Et ça, du coup, je l'ai construit et puis je l'ai laissé dans un tiroir pendant très longtemps. Et donc, il y a 18 mois, je l'ai ressorti du tiroir, je l'ai relu. Et puis, comme entre-temps, j'avais mûri, écrit d'autres choses, fréquenté aussi beaucoup d'autres poètes que je connaissais pas à l'époque, je pense. Voilà, les parties qu'il fallait supprimer, je les ai supprimées sans état d'âme et j'ai réécrit ce qu'il fallait réécrire. Donc voilà, ça a été très très... C'était pas quelque chose de décidé au départ, quoi, et ça s'est étalé sur plus de 10 ans.
Ouais. La création du monde, c'est évidemment le matin, c'est le soleil qui monte et la vie aussi qui monte, mais il y a aussi chez vous ce côté crépusculaire qu'on découvre par exemple dans le poème Héritage, 27 degrés d'amour, où là, eh bien, c'est le contraire finalement de la création du monde, c'est une sorte de décréation du monde ou de destruction du monde par l'être humain, ça vous tourmente aussi?
Ah oui, ça me tourmente extrêmement. Et très 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 sérieusement, je me demande comment on peut vivre dans notre monde, être aussi informé qu'on l'est, et continuer à traiter la nature comme on le fait, à nous traiter nous-mêmes comme on se traite, et à ne pas voir que on va en mourir. D'ailleurs, les pays les plus pauvres sont les premiers touchés par les sécheresses, par les crues, par le dérèglement climatique. Et je crois que nous, on vit dans une sorte d'absence de conscience. On veut pas, on veut surtout pas ouvrir les yeux. Et on se réfugie derrière l'idée que la science nous sauvera de tout. Mais voilà, pour moi, rien n'est moins sûr.
Chloé, on arrive au terme de cette interview. Après une pause musicale, je lirai des extraits de 27 degrés d'amour. Je rappelle que c'était aux éditions Le Citron en Gare et l'autre livre, Un récit, c'est un polder que vous pouvez vous procurer en vous abonnant à la revue des charges. Une dernière question, est-ce que un autre livre est en route?
Alors, en termes de poésie, non, il n'y a pas d'autres livres en route. Mais après, j'ai beaucoup de textes dans mes tiroirs, beaucoup d'idées, mais pour l'instant, rien n'est véritablement un chantier commencé.
Et vous faites vivre votre... je vois que vous êtes en lecture avec Valérie Canadchizy très prochainement. Vous avez envie de lire aussi vos textes, de rencontrer votre public, vos lecteurs?
Oui, tout à fait. Ben, alors, de deux manières différentes. Mes propres textes, bien sûr, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir les lire. D'ailleurs, le 1er décembre... Je suis invitée à la revue de la à la lecture de la revue Verso, donc à Lyon le 1er décembre. Mais je tiens aussi à faire vivre la poésie sous toutes ses formes à côté de chez moi, dans la MJC de mon quartier qui s'appelle La Maison pour tous. Donc j'anime des pauses poésie un mercredi par mois. Et là, on peut venir librement avec les textes qu'on aime, partager deux ou trois poèmes qu'on aime et écouter ceux que les autres ont apportés.
Eh bien, cette générosité, on la sent dans votre poésie.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Chloé Landriot, 27 degrés d'amour, publié aux éditions Le Citron Gare. Patience. Il faut trouver. J'oublie les mots. Les mots qui sont donnés, qui fondent sous la langue. La pluie tombe et c'est merveilleux. Mais il n'y a plus de mots pour le dire. Il paraît que les mots, sur les choses et nous-mêmes, les mots savent tout. Mais que peuvent les mots pour dire « mon chat, par exemple ». Ce n'est pas un chat. C'est autre chose. C'est de la douceur qui bouge. Je le regarde. Il est si particulier que je ne peux rien dire. S'il ne s'agissait que de le dessiner, je ne saurais pas faire, mais ma sœur le pourrait. Mais il faut le donner à toucher, avec des mots. Pourquoi ? Pourquoi ai-je besoin de dire ce chat ? Et pourquoi aucun mot ne reste-t-il jamais quand je veux vraiment parler de quelque chose ? Il y a des cailloux que je n'ai jamais su dire. Les ramasser aurait été bien vain sans un nom pour les appeler. Il y a des ciels d'été dont je ne parlerai jamais, des collines entières vouées à mon silence. Et voilà que je m'étale, moi qui ne sais pas parler. Je rêve de quelques mots qui suffiraient au monde entier, qui ne briseraient pas le silence. Parce qu'ils seraient dans le silence des choses et qu'on n'aurait jamais besoin de les en faire sortir. Mais ce n'est pas ainsi. Il y a notre amour, toi et moi, et puis notre amour d'homme, pour la beauté du monde, pour le mystère des animaux qui comprennent tout et des plantes qui donnent. Il y a notre amour qui nous fait bégayer, nous qui ne savons pas. Alors c'est le silence qui convient à nos âmes. Nos baisers nous le prouvent. Et pourtant, ce besoin de caresser les choses avec des syllabes. Presque un exil
disais-tu, d'être là parmi vous. Exil, loin des arbres qui poussent leurs fruits mûrs, expert comme des femmes dans leur art nourricier, exil, loin des chemins creusés par les pas, creusés par la pluie, qui vont entre des prés dont on connaît l'histoire. Nous n'avons pas les mêmes exils. Nous vivons, toi et moi, de différents lointains. Mais s'habituer un peu, c'est s'absenter tellement du vent, de la rosée et des amours d'enfance que je te ferai vivre dans les trous de mon cœur. Ô pays de pluie, à 5 heures en février, deux lampadaires qui s'allument conjuguent leur orange tendre au reflet de ma lampe dans la vitre éblouie. Le jour n'a pas bougé de toute la journée, et si l'on ne savait, on pourrait croire que ce gris-là va rester indéfiniment, avec ses faibles nuances, sur la ville immobile dans ses contours d'eau floue. Je pense à toi, mon ami, à ton amour de la lumière et des pierres sèches, à ce pays de bois, de feuilles humides qui te ressemble si peu. Comment peux-tu vivre là? Comment peux-tu encore te souvenir de moi quand février nous est à ce point infidèle? Je regarde à nouveau par la fenêtre. Le gris bleuit doucement et c'est bientôt la nuit. Comme dans un poème de Baudelaire que nous savons tous les deux, avec le long linceul tendu entre nos cœurs. Résistance. Je regarde tomber la pluie. Un peu tard, tu es loin. Nous parlons maintenant des enfants que nous n'avons pas encore. Nous parlons des distances et des billets de train. Nous parlons des familles séparées. Il n'y a plus d'arbres dans nos lettres, nous qui les aimons tant. Il n'y a presque plus de lettres non plus, et les mots et les yeux ne se croisent presque plus. Mais la place que tu tiens dans mon cœur est mieux gardée que tous les oppidums de nos versions latines. Tu te maries, et que te dire? Mon cœur est avec toi comme si tu allais partir pour un pays lointain où l'on va sans écrire, sans plus de signes de la main. Et pourtant non, j'embrasse par la fenêtre un arbre qui frémit de toute la liberté végétale que cria Apollinaire pour le mariage de son ami André Salmon qui se marie. Liberté végétale, ô liberté des feuilles. Les poètes que j'aime ne disent pas l'amour sans t'invoquer tout haut. Un interstice d'amour loge tous les miracles. C'est toujours le même arbre, chaleureux et vivant. Je ne peux pas dire autre chose quand je veux dire la vérité. C'est toujours le même arbre. Il n'y en aura pas d'autre, fût-ce pour ton mariage. Car les vitraux de son feuillage font la lumière sacrée qui t'accompagnera. Il n'y en aura pas d'autre. Mais que faudrait-il d'autre pour faire grandir l'amour tout alentour de toi? Tu te maries, et que te dire? Que cette union te soit comme une douce pluie, exhalant de l'écorce le parfum de ses fruits. Tu trouveras amer le venin des malheurs, mais tu te souviendras de toute joie reçue. Ton regard d'avoir vu où mènent les chemins ne sera pas brouillé. Parmi les ronces épaisses, tu trouveras des fruits d'incroyable douceur. Le grand arbre chalta, d'une branche innocente a effleuré ton cœur. Tu ne pourras plus te défaire de cette lueur inextinguible. Attente. Pour Hélène. À bêcher les cailloux, à labourer les pierres, à piquer les orties et du bout des orteils, à souffler dans des tubes, à bouillir la lumière, à braver les oiseaux, à scier aussi fort qu'un trille de fanfares, à serrer ton doudou, tu vas nous revenir. Il ne nous reste plus qu'à maudire les horloges, à user le soleil, à oublier le métronome en route et puis nous asseoir sans rien dire, ne plus rien demander, être absent du printemps qui s'avance sans toi, comme une mariée sans bouquet. Prière pour un mariage. Luciole, éclairez mon chemin, comme je vais ma main dans la main d'un garçon que je n'aime plus vraiment. À défaut du grand soleil, des lumières vibrantes au-dessus des déserts, parsemez mon chemin de timides lueurs. Et puisqu'il faut marcher sans aube ni comète, qu'un murmure indistinct nous guide un peu parfois. Le procès. Je clame, innocente et loyale, mon amour. Me condamnerez-vous, vous qui ne savez du jour que la mesure oblique et le pavé sonore, qui ne savez de la nuit que l'absence? Insoucieux de vos songes, vous enfoncez en vous-même les thèmes du regret et du désir amer, les refrains de la fatigue et l'ennui. Entendez donc ma voix frêle et qu'aucun écho n'escorte, et qui pourtant ne porte pas moins que le silence. Je clame, innocente et loyale, mon amour, et je dis que cet amour est pur à l'égal du soleil, qu'il nourrit sans brûler, qu'il unit toutes choses dans le vent du matin sans rien éparpiller, car chaque être a sa place et la tient en ce monde. Je dis que cet amour est pur ainsi que l'onde qui abreuve les rêves et les bêtes d'ombre, qui humecte la bouche douce des prairies, qui ravit d'un baiser délicat les herbes du matin. Et je tiens que pas un d'entre vous ne saurait me contraindre. Je vous tiens pour perdu si vous levez la main sur moi. Je clame, innocente et loyale, mon amour. Si je retiens mes larmes, c'est pour ne pas vous inquiéter. Si je me détourne de vous, c'est pour pouvoir encore aimer ce qui reste de vous dans le désert étrange que la peur a creusé entre les corps vidés. Qui saura cette histoire et qui pourra la dire sans en briser le cristal? Et je le dis encore que cet amour est pur, qu'il s'en va au-devant de l'air comme un oiseau, qu'il n'a pas peur du ciel, qu'il coiffe les montagnes du bout de ses doigts, qu'il espère, qu'il sait que tout est là. Je clame, innocente et loyale, mon amour. Me condamnerez-vous? Rêverie. Les champs sont lourds de lait. Quand tes mains en serrent ma taille, les collines déversent leurs sources fraîches, des odeurs de foin et de paille. Tu m'empêches de tomber quand je suis toute remuée par les vertes tiges. Tu tiens bon sur mes hanches, tu me hisses aux branches, et tu sais poser tes mains où la nature l'exige. Tu m'offres tes lèvres, et dans ce doux partage les prairies nous rejoignent. La terre se féconde à la lumière d'été, par tes mains doucement sur mon ventre posé. Antoine, avec toujours l'enfant qui affleure dans tes yeux, comment as-tu pu vivre dans leur solitude? Dans toute cette solitude qu'ils répandent autour d'eux. Mon Antoine, il y a cet enfant dans tes yeux qui demande pourquoi, avec obstination, qui demande à tue-tête et qui ne se tait que quand le sommeil est le plus fort. Le sommeil est plus fort parce que personne ne sait pourquoi. Mais personne ne sait non plus pourquoi. Il y a cet ange, ce caméléon, tu sais bien, fondu dans nos épaules, entre nos cheveux bleus, l'ange qui fait tout air et qui met dans tes yeux la source et son éclat. Mon amour, les mots sont trop légers pour dire comme je me sens lestée, lourde entre tes bras du sable du bonheur, et j'appelle de mes voeux ce poids toujours plus grand qui m'attache à la terre, qui m'attache à la vie, qui enfonce mes racines aux sources de tes veines. Nous n'avons plus le temps de nous parler. Seulement, nos corps savent. J'ai toujours recherché les îles avec toi et les bateaux. Sans doute, nous aurions beaucoup de nouvelles à nous dire. Que suis-je pour toi? Qu'es-tu pour moi? Où en est donc le long chemin que font nos veines ensemble, tandis que nous ne les voyons plus? Mais ne serait-ce que cela, non? Je ne peux pas le croire. C'est bien plus ténu, c'est bien plus imaginaire, pour ainsi dire. J'ai peur de le dire, j'ai peur d'arriver à le saisir en mots, parce qu'alors cela n'aurait plus de mystère. Car notre amour, comme toute chose sacrée, se nourrit de cette retenue des mots, de ce refus prudent de chercher à le dire. Et même, nous devons croire que ce n'est pas possible, afin d'en faire cette chose sacrée qui nous retient. Mais nos corps savent qu'il ne faut pas rester trop longtemps sans parler, et prennent de même leur nourriture la plus douce, peau à peau. Laisse-moi faire fête de ton corps, faire festin de mes sens, sans peur. Laisse-moi retrouver l'endroit où je peux être. Laisse-moi arriver à tâtons dans mon corps, sans me perdre. Du pain doux de ta chair, laisse-moi me nourrir, seulement jusqu'à ma faim. Tout n'est pas réparé, mais nos baisers s'avancent sur les chemins obscurs et sacrés du passé, jusqu'à l'endroit précis où nous ne fûmes jamais ensemble, là où pourtant chacun de nous rencontre l'autre et le connaît, à cette place exacte qu'il tient dans ses bras. Voilà, c'était quelques extraits de ce livre magnifique de Chloé Landriaux, 27 degrés d'amour, publié aux éditions Le Citron Gare. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de notre ami Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges, notre partenaire.
Audio numéro 52, ce mois-ci c'est Les hommes sans épaules numéro 44. La revue Les hommes sans épaules est une revue pleine et complexe. Pleine avec ses 336 pages, cela se conçoit. Complexe, ce numéro en particulier en est la preuve, puisque son contenu suit plusieurs pistes reprises tout au long de son cours pour certaines. Et la matière en son entier reste diverse et riche, comme le sommaire touffu en atteste, courant de la première à la quatrième de couverture. Indéniablement, l'axe principal se situe autour de la poésie russe contemporaine, pour rester large, avec la découverte d'un poète ignoré jusqu'à présent, que les HSE révèlent au grand jour, Nikolaï Prorokov. Christophe Dauphin lui consacre en effet son éditorial. Le contexte, une URSS en plein dégel, après la mort de Staline en 1953, jusqu'à la prise en main du pouvoir par Brejnev en 1964, ce qui correspond exactement à la période Khrouchtchev. Auparavant, la littérature russe baigne dans le réalisme socialiste. Malheur à tous ceux qui ne veulent pas y adhérer. Essénine se suicide en 1925, Mayakovsky en 1930. Goulag est mort en détention pour d'autres. Prorokov est l'héritier de Bulgakov, Maître et Marguerite, condamné à écrire pour son tiroir, comme l'écrit joliment l'animateur des HSE. Vient un peu plus loin dans le cours du numéro le dossier à proprement parler de la livraison consacrée à Nikolaï Prorokov par Olga Metchenkova. Elle relate les étapes de sa vie si brève entre sa naissance à Mourmansk en 1945 et sa défenestration en 1972 à Moscou. Il a fallu attendre 45 ans pour que ses poèmes enfermés dans une chemise voient le jour. Par les veines vrillées des sentiers, par les opulentes rues moscovites, les passants déambulent et mendient quelques rumeurs, des miettes de l'on-dit. D'autres poètes russes du dégel sont présentés comme Andrei Vosinetsky, Anatoly Naïman, Victor Sosnora. Je caresse les éperviers comme un bosquet de soldats hérissés de baïonnettes. Bella Akhmadoulina, Boris Pasternak, qui refusa le prix Nobel en 1958, et Josip Brodsky, condamné en 1964 à 5 ans de déportation et prix Nobel en 1987. Et en tête, Evgeny Evtutenko, auquel Christophe Dauphin consacre en outre une étude. Né en 1933, près du lac Baïkal, mon professeur de poétique se fut tout d'abord la taïga. Mi-intellectuel, mi-paysan, qualifié de poète de la déstalinisation, lecteur devant des foules immenses aussi bien en Russie qu'aux États-Unis, Evtutenko fut le chef de file des poètes du dégel. J'erre au fond de l'Égypte en un temps très lointain. J'agonise pendu aux branches d'une croix. Voyez, je porte encore la marque de ses clous. Dreyfus, me semble-t-il, c'est moi. Babillard, 1961, poème capital dénonçant l'antisémitisme composé en symphonie par Shostakovich. Evgeny Evtushenko est mort durant la confection de cette livraison le 1er avril 2016. Poursuivre, un article sur Mayakovsky par Yuri Anenkov, épuisé depuis 1958. Géant de près de 2 mètres, Mayakovsky bénéficie de deux coups de pouce retentissants, l'un par Gorky, l'autre par Lénine. L'auteur raconte ses différentes rencontres à Paris, jusqu'à son suicide en 1930. « Je suis quitte de la vie, inutile de faire le compte des souffrances, des soucis et querelles, vivez heureux. » Yuri Anenkov est ensuite l'objet d'un portrait par Christophe Dauphin, surtout en tant que peintre proche du futurisme, cubisme, voire expressionnisme et abstraction. Il est vrai que les portraits proposés de Trotsky, Meyerhold, Gorky ou Pasternak sont proches de la caricature et de ce fait très modernes. Yuri Anenkov est mort en 1974 à Paris. Puis Daniil Arms, poète, chef de file de l'Auberiou, ultime groupe moderniste russe. Il meurt épuisé, affamé en 1942. On passe sans transition, c'est aussi la marque de fabrication des revues, à aujourd'hui, à l'Ukraine et à une fémène. Oksana Sachko. Christophe Dauphin rappelle les grands devanciers comme Tchevetchenko ou Makhno avant de s'en venir aux premières manifestations des Femen qui obligeront celles-ci à s'exiler. Ce que fait Oksana Sachko en France, où prenant quelques distances avec les féministes françaises, elle se consacrera à la peinture d'icônes, art très précis et méticuleux, qu'elle détournera avec des symboles modernes opposés au sacré d'origine. Article de Branko Aleksic sur Ivo Andrić, poète bosniaque, prix Nobel en 1961, avec extrait de son discours à Stockholm. Le conteur et son œuvre ne servent à rien s'ils ne servent pas à l'homme et à l'humanité. Pour en revenir au HSE, hommage est rendu à deux collaboratrices de la revue décédée cet été, Jocelyne Curtil et Marie-Christine Brière. Deux dossiers consacrés à Gaston Miron, le grand poète québécois, Je suis sur la place publique avec les miens, la poésie n'a pas à rougir de moi, et Alexandre Voisard par Christophe Dauphin, poète suisse du haut lyrisme, que chacun de tes gestes soit souverain, comme le poème de l'insecte sous l'écorce. Il dit, le projet romanesque s'appuie sur une certaine structure, la poésie est démunie, elle n'est pas dans la démonstration. Enfin, des pages sont offertes à plusieurs auteurs remarquables, Annie Salagère, Jean-Claude Tardif, Daniel Abel, Frédéric Dison, Éric Chassefière, Nicolas Rouzet et Aurélie Delcros. Ne pas omettre les fortes notes de lecture, plusieurs en rapport avec le thème principal de la livraison. Il ne doit pas être facile pour l'animateur de mettre tout cela en page ou en musique. Qu'on se rassure, en rendre compte n'est pas plus aisé. En tout cas, un numéro formidable, comme à chaque fois. 17 euros. 8 rue Charles Moiroux, 95 440, Écouen. À la prochaine fois.
Nous retrouverons Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges, dans 4 semaines pour une prochaine chronique. Avant de rejoindre Louis Dubos, lui aussi chroniqueur et nous en sommes très fiers, pourquoi ne pas le dire, quelques poèmes extraits d'un très beau livre que j'ai reçu il y a quelque temps de Colette Andriot, poète bien connue. C'est publié aux éditions L'Atelier des Noyers, le titre de ce livre, Au gré du gris des jours. Il s'agit d'une poésie très lapidaire, très précise, extrêmement douce et qui, je le dois le dire, m'a beaucoup séduit. Voici quelques extraits de Au gré du gris des jours.
Je ramasse, je cueille, je glane, des bribes, brindilles, cailloux, peut-être des sources. Je n'ai pas de lieu, sinon les mots, et ce n'est pas sûr. Tu peux écrire sans verbe, ta parole n'est pas sacrée, tu restes sujet. Jour froissé, comme de vieux journaux pour allumer, quel feu. Jour tombé, jour cassé, abattu par le vent, j'entre dans la pénombre. Je marche, je suis ces pas qui sonnent, un cœur qui bat, un corps vivant. Regarde parfois le temps qui passe, tu prendras le temps suivant sur le tapis roulant. À l'abri du bruit, écoute chanter le merle. La nuit est au bord du jour. Recoudre ce qui est depuis longtemps déchiré ou jamais bordé d'une rassurante lisière. Et ce dernier, j'aime le silence d'un secret d'amour, le vol d'un oiseau, l'arc-en-ciel, impalpables trésors qui ne vont jamais dans des coffres. Voilà, c'est un très beau livre de Colette Andriot qui est admirablement illustré par Anouk van Rentergem, Au gré du gris des jours, publié aux éditions L'Atelier des Noyers. Je crois qu'il s'agit d'une maison d'édition qui débute. Alors, on lui souhaite évidemment bonne chance et beaucoup, beaucoup de lecteurs. Louis Dubot, ancien éditeur au Des Bleus, poète, bien évidemment, et chroniqueur sur Radio Grand Ciel dans La Route Inconnue. Je vous propose de l'écouter.
La poésie et la morue salée sont inconciliables. J'ai glané cet insolite aphorisme dans l'œuvre d'un poète et écrivain islandais, John Kalman Stephenson, auteur d'une trilogie disponible en traduction française aux éditions Gallimard. Trois titres, Entre ciel et terre, La tristesse des anges et Le cœur de l'homme. Saga bouleversante dans une langue poétique dérangeante. Sans tenir au résumé, comme dans une quatrième de couverture, à la lente et violente maturation d'un gamin vers l'âge adulte à travers les expériences brutales du quotidien, ne laisserait paraître que le mince et trompeur glacis de la partie émergée de l'iceberg. Alors que le corps tout entier de l'œuvre, immense et dense, se rapporte à la poésie, à son dangereux pouvoir de réveiller la conscience et de menacer le quotidien. Ici, la poésie s'implique dans le corps vivant organique, désorganise les idées reçues et jette le doute sur les certitudes intelligibles. La poésie pose sa nécessité comme un élément vital, un aliment indispensable à la survie de tous les jours. En effet, la poésie n'est pas décorum bonas ni benoît de contemplation. Elle est un personnage à part entière qui intervient dans le récit et détermine la destinée des choses et des êtres. C'est bien à cause de la poésie que l'ami du gamin, pêcheur de morue, trempé et congelé vif, trouve la mort, parce que tout occupé et possédé par sa lecture, un livre qu'on lui a prêté du poète anglais Milton, il a oublié de revêtir sa vareuse avant d'embarquer. Ce même livre entraîne le gamin, fidèle à la promesse faite à son ami de le rendre à son propriétaire, dans les souffrances d'un road movie, sauf qu'il n'y a pas de route et que ce n'est pas du cinéma, terrible et hallucinant, à travers la neige, le blizzard glaçant, l'hiver arctique, comme une plongée perdue dans l'enfer météorologique impitoyable qu'évoque un autre écrivain islandais, Arnaldur Indridason. Et tout ça pour un livre de poèmes. C'est encore la poésie que le gamin rencontre au cours d'une brève halte dans une petite ferme perdue dans l'immensité blanche, lorsque Maria, la fermière qui possède une douzaine de livres qu'elle lit et relit, lui confie un peu de monnaie et lui demande de lui apporter, lors de son retour, je cite, « un livre dont les mots ne restent pas immobiles sur la page, mais qui s'envole et nous donne des ailes, même s'il nous manque l'air pour voler. » Quelle humble et superbe approche de la poésie qui ne l'enferme pas dans la cage d'une définition savante. Des mots qui donnent des ailes, même s'il nous manquons d'air pour voler. Quoi de plus simple, de plus juste, de plus évident. Remarquable donc l'attitude de la fermière, archétype du lecteur exigeant, qui éclaire d'une lucidité aiguë le rapport de l'auteur et du lecteur. Dans un entretien, Le Monde du 25 mai 2013, John Kalman Stephenson insiste sur le fait que l'écriture, tentative pour saisir l'innommable, pour l'arracher à des profondeurs abyssales qui dépassent notre entendement, est, en soi, toujours condamnée à l'échec. La littérature n'apparaît que dans la rencontre, l'alliage de l'écriture et d'un lecteur accompagné de ses souvenirs, de son expérience, de sa douleur et de sa joie. Il précise pour conclure, le rôle du poète s'achève au moment où il publie le livre, au moment où il décide qu'il a achevé son travail d'écriture. C'est par l'union d'un auteur en recherche et d'un lecteur en quête que naît une littérature à même de saisir toute la vie, voire un peu plus encore, une littérature apte à créer une vie nouvelle. La conclusion du poète islandais rencontre un écho qui ne surprend guère chez le poète français Yves Bonnefoy, qui, intervenant en public lors de la Foire internationale du livre de Guadalajara, recommandait à ses lecteurs mexicains « N'essayez pas de trouver aux mots que j'emploie un sens. Les poèmes ne signifient pas. Il vous faut projeter dans chacun des mots votre expérience personnelle. Il deviendra votre poème, votre guide sur votre chemin. Faites confiance aux textes poétiques en donnant aux mots que ces poèmes emploient des significations que vous savez retrouver en vous. La poésie n'est jamais un support complaisant à l'existence. Elle est d'emblée un plaisir insupportable. On dépasse une banale empathie sensible pour créer une coexistence métaphysique. On s'engage dans la transcendance. On m'a donné des ailes, mais où donc est l'air pour voler ? Tout ça pour rappeler en d'autres termes que lire de la poésie amène simplement à comprendre quelque chose de la vie, tout simplement. On peut se procurer dans toutes les librairies les trois livres de John Kalman Stephenson parus chez Gallimard, « Entre ciel et terre »,« La tristesse des anges » et « Le cœur de l'homme ».
Et voilà, on ne repart jamais les mains vides d'une chronique de Louis Dubos. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancière. Cette édition de La Route Inconnue est presque achevée puisque je vais vous mettre dans les mains expertes de Jean-Claude Touzaï. Quant à moi, je tire ma révérence. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue. Portez-vous bien et lisez de la poésie.
Bonjour. Alors, on démarre ce soir avec des poèmes de Paul Éluard, qui sera à l'honneur sur le prochain chemin des poètes de Nursey au mois d'avril. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours. Elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires. Et quel vêtement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent vert, l'aube se passe autour du cou un collier de fenêtres, des ailes couvrent les feuilles, tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Un poème extrait de L'amour, la poésie. Un poème très court, intitulé « L'araignée ». Découverte dans un œuf, l'araignée n'y entrera plus. Extrait des animaux et leurs hommes. Pour vivre ici, c'est un poème qui est chanté aussi par l'ami Julos Boga. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. Je lui donnais ce que le jour m'avait donné, les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes, les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. Je vécus au seul bruit des flammes crépitantes, au seul parfum de leur chaleur. J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, comme un mort, je n'avais qu'un unique élément. Et enfin, extrait des derniers poèmes d'amour, ce poème est un peu plus connu, je pense. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Voilà pour Paul Éluard, donc un petit poème de Touzeil, extrait de Cela dit, publié à l'atelier de Croutel il y a quelques années. La trompinette de Boris Vian, la guitare de Federico Garcia Lorca, les sanglots longs des violons de Paul Verlaine, le jet d'eau de Guillaume Apollinaire, la môme néant de Jean Tardieu, le bureau de tabac de Fernando Pessoa, les cahiers d'écoliers de Paul Éluard, les feuilles d'herbe de Walt Whitman, les îles inoubliables de Blaise Sandra, la sauce énigmatique de Raymond Queneau, le cajot de Francis Ponge, les escargots de Jacques Prévert et le petit vélo à guidon chromé de Georges Perec. Au revoir, à la prochaine.
Thank you.